Quand une guerre éclate, celui qui doit partir pour se battre se désintéresse de beaucoup de choses. En fait, de presque tout. Les résultats du dernier match de foot n'ont plus aucune importance. Et la mode, il s'en moque. Un beau costume tape à l'œil agréable à porter est la dernière de ses préoccupations. Et de toute façon, on va lui refiler un uniforme. Mais ce qu'il voudrait bien qu'on lui donne est un gilet pare-balles, une armure, n'importe quoi, même si c'est lourd ou encombrant, pourvu que cela protège contre le feu ennemi. Or, il se trouve que ce monde dans lequel nous vivons est un immense champ de bataille spirituelle et morale. Partout où vivent des membres de l'Église universelle règne un climat de guerre. En effet, les croyants fidèles sont constamment surveillés et attaqués s'ils baissent leur garde en étant négligents dans leur marche avec leur Seigneur. D'où la nécessité d'être toujours sur le qui-vive. Je continue de lire dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Les armes de Dieu est une image empruntée à l'armure complète du soldat romain que l'apôtre a chaque jour sous les yeux, puisqu'il est surveillé jour et nuit par des soldats de la garde prétorienne, auxquels il annonce d'ailleurs la grâce de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 22. Tous les croyants ont été mobilisés pour aller au combat. Il n'y a pas d'exception et nul n'est réformé. Par ailleurs, tandis que nous cheminons en direction de notre patrie céleste, certains jours sont franchement plus mauvais que les autres parce que notre foi et notre fidélité au Seigneur sont sérieusement mises à l'épreuve. La tentation de désobéir à la parole de Dieu est terrible, ce qui provoque une lutte intérieure profondément déstabilisante. Selon les Écritures, les croyants sont des pèlerins de passage sur terre, mais avec une mission. Ils sont appelés à être des témoins de la grâce de Dieu en faisant connaître la personne et l'œuvre de Jésus-Christ autour d'eux. Pour ce faire, ils doivent avoir une attitude humble et soumise, comme Paul l'a décrite précédemment, mais aussi adopter l'attitude mentale de l'athlète qui est extrêmement discipliné et qui donne le meilleur de lui-même afin d'obtenir la victoire. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et, cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Les croyants doivent avoir du zèle et un esprit d'initiative. Mais, en cours de route, ils vont rencontrer des obstacles divers jetés sur leur route par les puissances des ténèbres, un ennemi invisible et un adversaire implacable qui fait tout en son pouvoir pour contrecarrer les plans de Dieu et surtout pour empêcher que les hommes entendent le message de la bonne nouvelle, le comprenant et acceptant Jésus comme leur sauveur. Tous ceux qui annoncent fidèlement ce message sont dans le collimateur des mauvais esprits. C'est un vrai problème, car même avec le plus grand courage et la meilleure bonne volonté, le croyant ne peut pas vaincre ces puissances maléfiques. Alors, que faire? Pour commencer, il ne faut pas les provoquer. En effet, jamais il est demandé à un croyant de s'attaquer à Satan et à ses cohortes, mais seulement de leur résister et tenir ferme. Dans la première épître de Pierre et dans celle de Jacques, on lit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques, chapitre 4, verset 7. Martin Luther fut obligé de comparaître devant l'assemblée politique de la ville de Worms, en Allemagne, parce qu'il prêchait que l'homme devient juste devant Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ, ce qui, pour l'Église catholique, était une hérésie. Après avoir été condamné, il a dit « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Sur ce point, je demeure ferme. Je ne peux pas faire autrement. Dieu veut que, face à l'adversité, ses fidèles campent sur leur position avec une pleine assurance, mais sans attaquer de front les puissances des ténèbres. Je me suis laissé dire qu'en Thaïlande, les bâtiments officiels et les banques ont souvent une petite niche dans la façade avec, à l'intérieur, la statue d'une idole d'une divinité quelconque. Supposons qu'un missionnaire organise des réunions bibliques ou de prière quelque part dans cet immeuble. Il est probable qu'il rencontrera de l'opposition spirituelle, auquel cas les croyants devront être prêts à se battre et à se défendre dans la prière. Par contre, si ce même missionnaire n'a rien à faire dans ce bâtiment, il doit ignorer ses idoles, les laisser tranquilles et surtout ne pas faire le malin et jouer au gros bras en priant contre elles, car cette attitude hautaine l'exposera à des coups sévères. D'ailleurs, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui avait justement décidé d'expulser le démon caché derrière l'une de ses divinités. Mais ça s'est terminé pour lui en hôpital psychiatrique. Même Michael, pourtant le plus puissant des anges, s'est bien gardé d'attaquer le diable, mais s'en est remis à Dieu. En effet, dans le livre de Jude, on lit « L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement outrageant, mais dit « Que le Seigneur te réprime. » Jude 9. Satan est la personnification du mal sous toutes ses formes. Mais nous lui devons le respect parce qu'avant qu'il se rebelle contre l'Éternel et organise un coup d'État, dans Ésaïe chapitre 14 et versets 13 et 14, il était le plus puissant de la plus magnifique des créatures de Dieu. Son chef-d'œuvre, en somme, Ézéchiel chapitre 28, les versets 13 et 14. Le Seigneur seul peut vaincre le diable et il le fait selon des règles bien précises. Lorsque Jésus entend que notre champion a expié nos péchés, il a triomphé du diable en lui ôtant le pouvoir légal et légitime qu'il possédait sur l'humanité depuis la rébellion d'Adam et Ève. Je continue de lire dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Éphésiens chapitre 6, verset 14. À partir d'ici et jusqu'à la fin, à l'exception des salutations, Paul donne ses dernières consignes dans une seule longue phrase, la huitième de cet épître. C'est la quatrième fois que Paul utilise le mot traduit par « tenir ferme ». Mais ici, il est à l'impératif. Et il est suivi de quatre participes qui indique la raison ou le moyen de résister, de tenir ferme. Après avoir identifié l'ennemi, l'apôtre va décrire l'arsenal militaire dont le croyant a besoin pour se défendre contre les puissances maléfiques. Il comporte sept éléments qui ont tous un lien avec le Christ. Le soldat romain est toujours habillé d'une tunique taillée dans un grand morceau de tissu. Elle a trois ouvertures qui permettent d'y passer la tête et les bras. Avant d'aller au combat, le bord du vêtement est relevé et coincé dans la ceinture de cuir qui serre sa taille et qui maintient en place son armure. Si cette ceinture vient à se défaire ou à se rompre, le soldat perd tout son attirail de guerre et ne peut donc plus combattre. Pour un croyant, la ceinture représente la vérité de Dieu contenue dans les Écritures et dans la Bonne Nouvelle. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean, chapitre 14, verset 6. Ou bien, ce qu'il a dit est vrai ou ça ne l'est pas. Il faut choisir. Il est essentiel de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, afin de ne pas se laisser emporter ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur, comme l'a dit précédemment l'apôtre en Éphésiens chapitre 4, verset 14. En 1986, la comète Halley a traversé notre ciel. Ça, c'est banal, puisqu'elle fait son apparition tous les 76 ans. Ce qu'il est, beaucoup moins, est qu'au moment de son passage, les membres d'une secte étrange se sont suicidés, croyant que, mystérieusement, en mourant de la sorte, ils seraient transportés dans cette comète. La crédulité des incrédules est un puits sans fond. Après la ceinture, le deuxième élément de l'armure du soldat romain est la cuirasse, faite de métal moulé ou battu, ou en cuir et recouvert de lames de métaux durs. Elles habillent le torse afin de dévier lames et projectiles et ainsi protéger tous les organes vitaux du soldat romain. La cuirasse, qui met le croyant à l'abri des coups mortels, c'est la justice parfaite de Christ, imputée aux pécheurs. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul écrit « Jésus, qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Mais parce qu'il est toujours un pécheur, le croyant peut être blessé. Dans la pensée juive, le cœur représente le raisonnement et la volonté, tandis que les intestins sont considérés comme le siège des émotions. Or, c'est par ces deux entrées, l'intellect et les passions, que Satan fait souvent tomber les fidèles du Seigneur. Nous sommes en effet bien trop facilement influencés et manipulés dans nos pensées et dans nos sentiments. Pour se protéger du diable, le croyant doit se garder du péché qui, avec ses longs tentacules, nous enlace si facilement. Je dois donc traduire la position de justice inhérente que je possède dans les cieux en actes concrets. Dans ma vie de tous les jours, je dois manifester un caractère droit, en alignant mon comportement sur l'étalon mesure de ce qui est juste et vrai devant Dieu, en rejetant tout ce qui a trait au mensonge et en prenant mes décisions selon ce que je sais être la volonté de Dieu. Paul aux Colossiens et Pierre dans sa première épître écrivent respectivement « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre » Colossiens chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Aucun croyant ne peut tenir ferme contre les attaques du diable s'il n'a pas confessé et réglé toutes les fautes dont il est conscient. Une fois cette bonne chose faite, il ne faut toujours pas qu'il baisse sa garde, parce que sa vie ne sera jamais comme un long fleuve tranquille. Un autre écueil le guette, l'autosatisfaction due à sa propre justice. Le croyant ne doit jamais tomber dans l'erreur en penser qu'un comportement intègre ou des bonnes actions, qu'ils soient réels ou imaginaires, peuvent lui faire gagner des points devant Dieu. Une telle attitude revient à ôter sa cuirasse et ainsi s'exposer aux traits enflammés du malin. Il faut aussi savoir que les activités religieuses d'apparence pieuse ne le sont pas forcément. Bien qu'une doctrine saine et une vie droite soient essentielles, elles ne suffisent pas parce qu'une vie sans intimité avec le Seigneur n'est jamais que du légalisme qui peut facilement virer à l'hypocrisie façon parisienne. La dégradation spirituelle commence lentement. Comme le homard qui est engourdi dans l'eau chaude ne se voit pas bouillir, le croyant ne s'aperçoit pas qu'il commence à oublier le Seigneur, à perdre la joie et le grand intérêt qu'il ressentait pour la parole de Dieu, pour les réunions de prière, la communion avec d'autres croyants, l'adoration par le chant, et bien sûr, il perd aussi le sentiment d'être un enfant de Dieu. Alors sa vie chrétienne devint fade et même insipide. Il n'y prend plus goût et finit par tout abandonner. Je continue de lire dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. « Ayez pour chaussures à vos pieds la préparation que donne la bonne nouvelle de la paix. » Éphésiens chapitre 6, verset 15. De nos jours, il existe de nombreux types de chaussures pour toutes les activités possibles et imaginables. À n'importe quel sport et surface du sol correspond une chaussure, et sans doute plus d'une, qui a été conçue exactement pour ça. Je sais par expérience que la course à pied exige des semelles flexibles et qui peuvent absorber les chocs répétitifs. Par ailleurs, je possède des sandales pour l'été et d'autres pour l'hiver, des mocassins quand il fait mauvais temps et des bottes pour la neige. J'ai même des chaussures pour les grandes occasions, des marrons pour les mariages et des noirs pour les enterrements. Ça n'en finit plus. Ce qu'un soldat porte aux pieds est capital, parce que tous ses déplacements en dépendent. Quand j'étais à l'armée, on nous a donné des grosses chaussures montantes en cuir qu'on appelait des Rangers. Elles protègent bien contre les cailloux et les épines, et comme la semelle a un relief très découpé et profond, quand on campe à hutte, ça accroche et limite les dérapages en terrain glissant. Malheureusement, les Rangers ne gardent pas les pieds au chaud parce que le cuir ne permet pas à la transpiration de s'évaporer. Alors, quand il fait très froid, on a les pieds de glace. J'en ai fait un peu l'expérience à Nancy pendant les classes. Mais c'est surtout l'année suivante, quand on était en manœuvre dans le fin fond de l'Allemagne et qu'il faisait tous les jours du moins 20, que j'avais vraiment eu les pieds gelés. Quand le soldat romain se bat en combat singulier, ce qui est très fréquent, il est indispensable qu'il ait une assise quasi parfaite afin de demeurer stable et assuré, et ainsi éviter de se faire déséquilibrer par la violence des coups qui lui porte son adversaire. Par analogie et au niveau spirituel, les chaussures des croyants représentent la paix que Dieu a conclue avec eux par l'intermédiaire de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Aux Romains, Paul écrit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains chapitre 5, verset 1er. C'est en lui et par lui que le Créateur a fait la paix avec la race humaine. Cette paix avec Dieu est l'assise et la fondation. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, sur laquelle les croyants sont établis et à partir de laquelle il leur est possible de tenir ferme contre le diable. Je continue le texte. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Dans les guerres antiques, surtout lors des sièges, les archers utilisent des flèches incendiaires. Leurs extrémités sont enduites de poids et de résine qu'on enflamme juste avant de tirer. En se plantant, la flèche émet des résidus brûlants, jusqu'à plusieurs mètres de l'impact, ce qui met le feu à tout ce qui est inflammable, y compris les habits. Pour s'en protéger, les soldats de l'infanterie romaine portent de très grands boucliers qui mesurent 1,5 m de haut et 80 cm de large. Ils sont souvent en bois recouverts d'une feuille de métal. Les soldats les tiennent l'un contre l'autre de façon à former un mur derrière lequel ils s'abritent contre les flèches. Ici encore, Paul décrit le diable comme un être vivant, une créature et non pas des mauvaises idées ou une philosophie défectueuse. Le croyant doit se battre non pas contre des pensées ou influences mauvaises et abstraites, mais contre Satan et ses ordres de démons. Leurs traits enflammés représentent les multitudes de tentations auxquelles on peut être exposé, ainsi que le doute concernant la bonté de Dieu ou la véracité des Écritures, surtout lorsque son enseignement va à contre-courant des idées du moment. Il faut dire qu'il y a de quoi être impressionné par les professeurs et scientifiques en blouse blanche qui parlent bien haut de leur chair d'autorité. Il proclame, selon la méthode bien rodée de l'emporte-pièce, des théories qu'ils ont maquillées en certitude de manière à intimider tous ceux qui osent mettre en doute leur grand savoir. Le seul moyen de ne pas se laisser influencer par de telles affirmations est une foi inébranlable en la parole de Dieu. Comme tous les autres éléments de l'armure, le bouclier de la foi dirige nos regards vers Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef de notre foi, et qu'il l'amène à son terme parfait. » Hébreux chapitre 12, verset 2. La foi est absolument indispensable puisque la vie chrétienne commence justement par un acte de foi en la personne du Christ. C'est d'ailleurs, sans doute, à cause de cette vérité que dans le langage populaire on dit « Il n'y a que la foi qui sauve. » C'est le prophète Habacuc qui écrit « Le juste vivra par la foi. » Habacuc chapitre 2, verset 4. Une déclaration répétée trois fois dans le Nouveau Testament avec chaque fois l'accent placé sur un mot différent. Romains chapitre 1, verset 17, Galates chapitre 3, verset 11 et Hébreux chapitre 10, verset 38. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons « Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas condamné, mais celui qui ne croit point en lui est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 18. Et Jésus a dit de lui-même « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean chapitre 6, verset 47. La foi n'est pas une substance mystique ou mystérieuse que certains ont et d'autres pas. Tout le monde est obligé de vivre avec une certaine foi. Dans une des tribus des mers du Sud, les mots « confiance » et « foi » sont exprimés par l'expression « reposer tout son poids ». Eh bien, nous faisons tous cela. Par exemple, si vous traversez un pont, c'est parce que vous êtes convaincu qu'il va vous supporter. Dans le même ordre d'idées, les aliments que nous mangeons, nous croyons qu'ils ne sont pas empoisonnés. Des millions de gens confient quotidiennement leur sécurité aux avions, aux trains, bateaux et automobiles. Et c'est ce qui rend la vie possible. Mais la foi n'est pas une fin en soi, seulement un moyen. Et toute sa valeur dépend de son objet. Les kamikazes terroristes croient qu'en se faisant sauter et en tuant un maximum de gens, ils gagnent le paradis. Ils ont certes une très grande foi, mais elle est fausse. Pour le chrétien, c'est Jésus-Christ, tel qu'il est révélé dans les Écritures, qui est l'objet de sa foi. C'est en comptant sur lui et en mettant sa confiance dans sa parole que le croyant dresse un bouclier efficace contre les flèches enflammées du malin et qu'il peut lui résister et continuer dans sa marche chrétienne. Dans les livres des Proverbes et des Psaumes, on lit « Toute parole de Dieu est entièrement vraie. Il est comme un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Proverbes chapitre 30, verset 5. Les voies que prescrit l'Éternel sont parfaites et sa parole est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui le prennent pour refuge. Psaume chapitre 18, verset 31. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont engagés dans une lutte sans merci contre les puissances des ténèbres. C'est la réalité. Il leur faut donc prendre bien soin de ne jamais baisser leur garde, mais plutôt de lever tout haut et constamment le bouclier de la foi.